Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Évasion pour ce sixième numéro de Bien au contraire, l'émission qui réfléchit sans en avoir l'air. Bienvenue pour ce Bien au contraire, au thème « On ne peut plus d'actualité ». Ce n'est plus une profession de foi idéologique ou une opinion, mais un constat froid et lucide de tous les observateurs les plus sérieux. Les inégalités ne cessent de se creuser. La pauvreté gagne du terrain en France. Des enfants dorment dans la rue, des salariés sont dans l'incapacité de se payer un logement. Alors certes, des luttes fleurissent ici ou là, mais souvent sans lendemain. Le peuple serait-il dans l'incapacité de défendre ses intérêts lorsque ceux-ci sont gravement menacés? Lorsqu'une poignée de milliardaires accapare dans l'indifférence générale la quasi-totalité des richesses produites, tandis qu'une part de plus en plus importante des familles s'enfonce dans la précarité et la misère. Alors voilà, c'est précisément l'objet de l'essai de Guirec Lemeur, « L'impuissance du peuple » paru aux éditions Edefcom, dans la collection Sapiens. Guirec Lemeur, que nous avons le plaisir, une fois n'est pas coutume, d'accueillir dans le studio, puisqu'en plus d'être essayiste, il a l'excellente idée d'être finistérien. Bonjour Guirec.
Salut Patrick.
Ah ben ça c'est un plaisir, hein, parce qu'il y a de quoi faire avec cet essai. Donc, qu'est-ce donc que ce peuple ? Serait-ce le même, ce peuple impuissant, serait-ce le même que celui dont se gargarise le Rassemblement National ou Reconquête ? Allez écouter, d'ailleurs il s'exprime à sa place.
Alors, le peuple, c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question, vu que le mot est présent dans le titre. Pour moi, le peuple, en fait, c'est 100% de la population, c'est-à-dire c'est tout le monde. Je pars du principe que n'importe qui, selon son lieu de naissance, son éducation, peut se retrouver dans une position de privilégié, voire de milliardaire, ou dans une grande précarité. Et donc... le peuple, ça, il faut dans l'idéal, pour moi, intégrer tout le monde, peu importe ses origines politiques, sociales, ethniques, etc. Voilà. Après, il y a dans ce peuple des disparités, évidemment, sociales, de richesses, des classes sociales, etc. Mais voilà, c'est en ce sens que je parle du peuple, de tout le monde.
Donc, une partie de ce peuple a fait sécession. On verra plus tard, c'est ceux qui sont les possédants. Et voilà. Donc l'essai, il remonte très très loin dans l'histoire de l'humanité, parce que ça se situe carrément à l'âge de pierre, quoi, où il y a les premières populations humaines.
Bah oui, en fait, au départ, je pensais pas que j'allais remonter si loin dans le temps, mais en fait, à force de chercher, ça m'a ouvert vers d'autres questionnements, vers d'autres sciences, vers la linguistique, puis l'anthropologie, et puis en fait l'histoire. Et en remontant, en cherchant toujours à creuser la racine du problème, je voulais toujours remonter à la racine de mon questionnement initial, et bah forcément, je me suis retrouvé vers moins 11 000 ans, moins 13 000 ans, au moment où on a un peu plus accentué la sédentarisation, où ça s'est un peu plus systématisé, et où il y a beaucoup de choses qui se sont jouées à cette époque-ci.
Ouais, tu situes le début des grandes inégalités avec l'agriculture. Avec l'agriculture et la sédentarisation et l'agriculture.
Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours eu des inégalités. Hein, même oui. Quand on était chasseur-cueilleur, et bien évidemment, il y avait des formes de domination qui existaient. Je pense que ça a toujours existé dans le monde animal, chez les primates et les premiers hominidés. Mais au moment de l'agriculture, il y a une manière d'organiser le travail collectif et l'appropriation des richesses qui a exagéré, accentué et systématisé les inégalités. Parce que l'agriculture a permis, vu qu'on habitait toujours au même endroit et qu'on cultivait la terre, a permis soit de s'approprier des terres ou de gérer les stocks de nourriture, les excédents de nourriture qui ont été produits. Et cette manière de gérer ces stocks de nourriture a été un des grands facteurs, pas le seul, hein, mais un des grands facteurs, pour commencer à systématiser et à agrandir vraiment les formes d'inégalité.
Il y a eu aussi la spécialisation au sein des clans. C'est-à-dire qu'il y a eu, des chefs, parce qu'il fallait gérer justement les stocks. Il y a eu une forme de début d'armée qui était chargée soit d'aller chasser, soit de protéger le clan. Et il y a eu des débuts de clergé avec les sorciers, avec les chamans, avec des gens comme ça. Et puis, il y a eu les autres qui étaient chargés de nourrir ceux qui ne travaillaient plus au champ, puisqu'ils étaient spécialisés soit dans la défense, soit dans la relation avec les dieux.
Oui, dès qu'il y a eu des positions de pouvoir très affirmées à cette époque-ci, il y a eu des métiers spécialisés, notamment au service du pouvoir, qui n'existaient moins avant, en tout cas, du moins quand on était chasseur-cueilleur. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai commencé à comprendre. Hein. Je peux faire le tour de ces questions, c'est très très compliqué, mais ce que j'en ai compris, c'est que voilà, il y avait des métiers spécialisés au service du pouvoir, donc soit pour collecter les impôts, des stocks de nourriture qui étaient produites, soit pour défendre la position du pouvoir elle-même, donc des soldats au service des chefs, soit des personnes plus dans la spiritualité qui étaient là pour montrer que le chef était le représentant d'un dieu sur terre ou d'une entité spirituelle. Et donc il y avait tout un tas de métiers comme ça qui se sont élargis, développés au service d'une forme de domination plus étendue.
Il y a une notion qui est présente dans l'essai qui m'a un peu marqué, c'est la différence entre l'homo logicus et l'homo sapiens. C'est-à-dire que notre cerveau serait fait pour admettre une certaine part d'illogisme à partir du moment où la survie est en jeu. C'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément la décision la plus logique, mais la décision qui va nous permettre de survivre. Et cette particularité du cerveau humain lui a... aussi, l'a aussi conduit à accepter une certaine forme d'inégalité.
Alors ça, c'est des choses qu'on voit moins souvent dans les essais qui traitent de la domination et de l'explication de la domination et de notre manière d'accepter les formes de domination et de pouvoir illégitimes. Mais il y a des chercheurs en neurosciences notamment qui nous expliquent que le cerveau, il a évolué au cours de millions d'années d'évolution et au cours de ces millions d'années, il s'est adapté de manière très fine pour percevoir des dangers immédiats, pour agir de manière instinctive, pour échapper à un danger ou pour chasser une proie. Le cerveau n'est pas forcément fait pour prendre du recul sur son organisation collective humaine, pour philosopher, pour réfléchir à des choses un petit peu complexes sur le long terme. Or, lorsqu'il y a des positions de pouvoir qui commencent à arriver et qui s'installent, du coup, on va peut-être manquer un petit peu de prise de recul, en fait, de philosophie, de bon sens, pour essayer d'analyser tout ce qui est en train de s'installer. On pense d'abord à notre sécurité immédiate, à la sécurité personnelle, celle du clan, et on a peut-être moins tendance à réfléchir à ces structures politiques qui se mettent en place. Donc, notre dimension cognitive de notre cerveau, je pense que c'est un des aspects à étudier pour comprendre la racine de notre acceptation des formes de domination.
Ouais, il y a 8 piliers qui sont décrits, mais vraiment en détail. L'essai est très, très, très fouillé. Il y a 8 piliers de la domination, comment les puissants dominent. Mais pourtant, l'impuissance du peuple, mais pourtant, il y a des révolutions. Il y a eu la révolution de 1789 en France, celle de 1848-1830, laissons tomber. Il y a eu la Commune, il y a eu quand même un certain nombre de rébellions, il y a eu des luttes ouvrières. Donc le peuple n'est pas tout à fait impuissant.
Alors pour moi, les moments de révolution, de rébellion, ces grands moments de l'histoire qui sont vraiment étudiés, hein, même à l'école, enfin la Commune un peu moins, hein, mais... En fait, c'est des moments où, certes, il y a eu des avancées sociales, des avancées politiques. À la Révolution française, en 1789, on est sorti du royalisme avec l'hérédité du pouvoir qui passait du père au fils, par exemple. Et on est allé vers des formes de gouvernement peut-être plus accessibles à une diversité de personnes, on va dire. Mais ces moments-là ont été aussi l'occasion d'installer... un nouveau langage qui allait nous faire croire que désormais, on était en démocratie où le peuple prenait les rênes du pouvoir, entre guillemets. Or, par exemple, après 1789, les personnes qui étaient au pouvoir en France...
Se
disaient eux-mêmes antidémocrates. Ils considéraient que le peuple n'était pas fait et n'avait pas les moyens intellectuels ou le temps pour s'occuper de politique. Et ça, c'est quelque chose qui a duré très longtemps, et on a hérité de beaucoup de structures et de mots même pour définir nos manières de faire de la politique, qui sont hérités de ce temps-là, et dont on a beaucoup de mal à se défaire. Donc certes, il y a eu des avancées dans ces moments de révolution, mais ça ne veut pas dire que le peuple prend en main son destin, participe activement à l'écriture de sa constitution ou des règles du pouvoir. Et souvent, les révolutions radicales ont été matées, comme par exemple pendant la Commune de Paris, et très durement, hein, et dans le sang. Donc, c'est
30 000 morts en une semaine.
Voilà.
30 000 fusillés.
Donc, faut aussi regarder cette réalité-là. Dès que le pouvoir sent qu'il y a des pratiques politiques alternatives qui prennent du pouvoir et qui sont à même peut-être de remettre en cause vraiment systémiquement le pouvoir, là, ils élèvent le palier de la répression symbolique et physique. Et, c'est très dur. Donc ces moments de révolution, ils sont à regarder dans les deux côtés.
On observe aussi dans l'essai un passage très très important. C'est le passage de la domination dans la loi. C'est-à-dire que c'était la propriété privée, par exemple, qui est quelque chose qui est absolument pas naturel, qui n'existe pas à l'état naturel, tout d'un coup devient la loi. Et à partir du moment où c'est la loi, ce n'est plus attaquable. C'est le gouvernement est là pour faire respecter la loi, et l'État a bénéficié de la violence légitime. On n'arrête pas d'en parler en ce moment, justement, pour faire respecter la loi. Alors que cette loi n'a rien de... Justement, la plupart de ces lois ont été faites après la Révolution, elles ont été faites au moment du bonapartisme, le code civil, qui est toujours le code pénal, qui est toujours en vigueur. Et à cette époque-là, c'était le suffrage censitaire, c'est-à-dire que il n'y avait que les gens qui payaient des impôts et les hommes... et qui était suffisamment riche pour pouvoir voter. Donc ce qu'on nous dit comme issue du peuple, la loi issue du peuple, c'est une vaste fumisterie.
Tu parles de la loi. Alors la loi, pour moi, c'est un moyen de justifier, de légitimer le système politique tel qu'il est, ou le système économique. Il y en a d'autres, hein. Il y a ce qu'on peut répéter dans les médias, il y a les programmes scolaires, il peut y avoir des discours dominants, ou même des discours religieux à certaines époques. Et la loi, le fait de légiférer et d'entériner dans la loi quelque chose, ça va permettre de dire, ben vous voyez, nous sommes du côté de l'état de droit, du côté de la justice, de la loi, et donc c'est quelque chose d'indiscutable. La première question à se demander, c'est qui écrit la loi, qui oui. fait les lois, qui est aux manettes du processus de faire la loi. Donc, quelque chose qui est écrit dans la loi ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va aller forcément dans le sens de l'intérêt général, du bien commun, dans un sens sur le long terme.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où c'est dans la loi, ça ne se discute plus.
Au contraire.
Dans ce qu'on entend.
Dans ce qu'on entend, voilà, dans le discours des dominants, c'est bien pratique. Mais au contraire, nous devrions discuter de tout, douter de tout, surtout lorsque les choses sont énormément répétées, sont dans la loi. Aujourd'hui, on a par exemple un 49-3 qu'on utilise pour faire passer une réforme des retraites en essayant d'éviter les débats parlementaires. Bon, on peut se poser la question, est-ce que pour une réforme aussi importante, qui fait amener autant de gens dans la rue, à juste titre, est-ce que la loi est bien faite ? On peut se le demander. On fait appel à un conseil constitutionnel pour statuer sur la soi-disante conformité à la Constitution de cette loi. On peut se demander qui sont les membres du conseil constitutionnel, à quel moment il a été créé, pourquoi ? Et est-ce que, encore une fois, ce garde-fou, ce qu'on appelle un garde-fou démocratique, est-il vraiment un garde-fou ou un des autres moyens pour, encore une fois, se justifier, se légitimer et montrer qu'on a potentiellement des choses pour montrer qu'on est dans la justesse. Il faut douter de tout, il ne faut pas hésiter à douter de tout.
Surtout. il y a un des points forts, l'impuissance du peuple, c'est la tendance de l'homme au conformisme. Au conformisme et à la peur de singulariser, c'est ce qui ressort de l'essai là.
Oui, le conformisme, alors c'est comme son nom l'indique, hein, c'est quelque chose de très puissant dans nos comportements collectifs. On a besoin des autres pour exister, pour s'identifier aux autres, pour être reconnu par ses pairs, dans la famille, dans les groupes, à l'école. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Mais en même temps, il y a les effets pervers de cette dimension sociale et qui fait qu'on est parfois aussi capable d'accepter et de considérer comme normal des comportements collectifs ou des discours collectifs qui, au final, si on les creuse, si on discute de leur origine, de ce qu'ils disent réellement, nous emmène pas forcément vers quelque chose où on sera plus éclairé pour autant, et ça peut contribuer même parfois à limiter notre esprit critique parce qu'on va se conformer à des attitudes, des habitudes, des discours qui peuvent parfois être même aliénants hein, parce que dans nos manières de travailler ou de considérer certains systèmes politiques, on va considérer que c'est normal, acceptable, et on va s'y conformer alors qu'on devrait au contraire les remettre en question.
Il y avait une façon justement d'empêcher que le conformisme tombe, c'est de priver la population de temps. C'est-à-dire qu'auparavant, au 19e siècle, il y avait des journées de 12 heures, 14 heures, les gens n'avaient pas le temps à part dormir, manger et travailler, ils faisaient que ça. Et là, petit à petit, on a donné plus de temps, c'est-à-dire qu'on travaille moins en temps qu'avant, mais le temps est pris par la technique, on a le nez dans le portable. Et priver la population de temps, c'est priver la population de réfléchir.
Oui, alors curieusement, on a libéré du temps de travail hein, progressivement, notamment au fil du XXe siècle. Mais ces semaines de congés payés supplémentaires, cette réduction du temps de travail durant la journée, ce qui est une bonne chose, hein, mais à quoi a été-il destiné ensuite ? La société de consommation qui était là pour nous faire consommer toujours plus de biens, de vacances au bout du monde. Et ce temps-là n'a pas été pris pour faire un pas de côté par rapport à nos propres vies et se dire qu'est-ce que je veux réellement comme travail, est-ce que je veux prendre le temps de réfléchir, de philosopher, de me déconnecter de mes habitudes et de penser un peu notamment les rapports de domination et comment je veux m'engager, peut-être militer par rapport à ça. Donc oui, comme tu dis, le temps qui nous manque vraiment est un élément déterminant pour de notre impuissance politique. Parce que si on n'a pas de temps, ne serait-ce que pour réfléchir, pour prendre de l'information autrement, pour creuser d'autres informations qui sont plus difficiles à trouver que sur les chaînes d'infos en continu, sur la radio qu'on a juste allumée dans la voiture, eh bien on est dépossédé du temps de réflexion simplement pour exercer un peu plus son esprit critique par rapport à ces sujets.
Eh ben non, on va pas se laisser avoir et puis on va se prendre le temps d'une première pause musicale et puis on va même se permettre d'aller du côté de l'Afrique avec Fela Kuti.
taille gauze. T'as pas fait ses bêtes au milieu malo. If you want cook soup, now what are you going to be bang bono, miller or if your head is hot, now what are you going to do? Tomobandagba, oh, milomalo. If your child is grow, now what are him going if what are you your child, now what are you going
Vous êtes toujours sur Radio Évasion à l'écoute de Bien au contraire, l'émission qui réfléchit sans en avoir l'air, et toujours en compagnie de Guirec Lemeur, venu nous présenter son essai « L'impuissance du peuple » paru aux éditions Edefcom dans la collection Sapiens. Dans ton essai, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est « La technique et la bureaucratie sont les deux faces d'une même pièce maîtresse, celle qui assure le verrouillage fonctionnel et structurel du rapport de domination. » Et là, moi, je me suis retrouvé avec Joseph K., le personnage du procès de Kafka. C'est-à-dire que tout est fait pour que l'individu soit complètement perdu dans un labyrinthe absurde et implacable.
Ben oui, le propre de ce que j'appelle le système de domination aujourd'hui, alors c'est pas du tout une formule complotiste ou quoi que ce soit, hein, c'est un système qui s'est installé au fil de l'histoire et qui fait en sorte que la répartition des privilèges et du pouvoir reste telle qu'elle est, sans intervention quotidienne ou systématique des dominants, sans mettre en place une répression physique continuelle. L'idée, c'est que le système se reproduise tout seul et que la répartition des privilèges perdure de cette façon-là. Tu parlais... Alors, ta question, c'était...
C'était par rapport entre la technologie, oui, voilà, et la bureaucratie.
Oui, tout à fait. Donc, la technologie et la bureaucratie sont certains des procédés qui sont utilisés, développés, affinés au fil du temps pour que les procédures se perdurent toutes seules, finalement. Et les individus, que ce soit dans les services publics ou dans d'autres professions, sont les agents du système, sans forcément le savoir, hein, et participent de cette bureaucratie, de cette technologie qu'on utilise en permanence, notamment la technologie de la surveillance des données aujourd'hui. Et ça permet au système de perdurer, parce que c'est vraiment sa caractéristique première, c'est justement de s'adapter aux évolutions techniques, procédurières, mais pour ne jamais disparaître. Donc ça, c'est ce que je décris un petit peu et que je définis en introduction. C'est vraiment un élément systémique. Ces procédures de bureaucratie, de technologies sont intégrées dans nos systèmes médiatiques, dans le système éducatif, dans la manière de traiter les données personnelles des individus, dans la manière d'aller travailler. Donc C'est pas évident de regarder tout ça en détail, hein, c'est très complexe.
Mais il y a même une partie de la technologie qui est en train de faire gagner énormément d'argent aux dominants. C'est-à-dire qu'avant, de mon temps, il y avait les RG, il y avait les renseignements, le fichage, etc. Là, maintenant, l'avantage, c'est que les gens se fichent tout seuls. Grâce aux réseaux sociaux, on donne absolument tous les renseignements nécessaires, et même encore plus que ce que la police n'aurait jamais pu trouver avant. On est rentré dans une société orwellienne où on est toujours sous le feu des caméras. Ce qui renforce encore l'impuissance du peuple à se soulever, justement, et à se libérer.
Ouais, et on a atteint un palier assez inquiétant pendant la pandémie de coronavirus, où nous nous surveillons nous-mêmes entre nous, en demandant à l'entrée des bars ou des lieux publics de discussion, de débat, d'avoir un pass sanitaire, un QR code, d'être fiché à l'entrée, et de partager nos informations sanitaires. Alors que la plupart des gens qui exécutent ces processus, ces procédures installées, sont souvent contre, en fait. Moi, de nombreuses fois, j'ai été face à des personnes qui me demandaient un pass sanitaire, mais qui étaient désolées et qui disaient « Moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça, je suis plutôt en désaccord, mais je n'ai pas le choix. C'est mon métier, ça fait partie de mes prérogatives, je suis un peu obligé de vous le demander. » Donc on devient rapidement les agents vraiment de tous ces processus techniques qui nous envahissent et qui nous dépassent, puisqu'on ne les maîtrise pas. La technique, c'est très compliqué et on a très peu d'emprise sur ce qui se passe derrière un écran, sur Internet, dans la circulation des données collectives.
Il y a une spécialisation aussi qui est de plus en plus importante dans les métiers, dans les entreprises, et qui est prise de plus en plus tôt. Les gamins, à partir de 14-15 ans, doivent être obligés de choisir une spécialisation maintenant, et qui rend de plus en plus difficile tout esprit d'intérêt commun entre les dominés, entre les salariés. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'intérêt commun, puisqu'on n'est plus que des petits groupes hyper spécialisés, avec un langage qui est propre à chaque groupe et qui interdit ce qu'on appelait avant justement la lutte des classes, la logique de classe, l'appartenance à une classe. Maintenant, on appartient à des tout petits groupes d'intérêts.
Ouais, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément au quotidien, mais qui est extrêmement puissant dans notre manière d'être atomisés et isolés les uns des autres. C'est d'être, par exemple, au travail, notamment dans les grandes entreprises, ou les entreprises d'ouvriers, ou dans les services publics, d'être individualisés au maximum dans nos tâches, dans nos salaires, dans nos manières d'être évalués, dans nos parcours, et dans même le nom de nos fonctions qu'on exerce au sein de notre entreprise. Et donc, vous vous retrouvez avec des personnes qui ont moins les moyens de s'entraider, de se parler, de se réunir. Ils n'ont pas forcément les mêmes moments de pause. Et c'est cette manière-là, c'est insidieusement une façon de rendre les individus face à leur propre activité et de leur dire, vous êtes responsable de votre métier, de votre parcours, de ce que vous faites. Et le collectif perd un peu de sa puissance dans ces moments-là. Et on le voit bien hein, notamment dans les grandes entreprises ouvrières, où on devient plus des opérateurs avec des tâches très précises, et plutôt qu'être un collectif d'ouvriers qui partage un même métier, une même profession et qui défend les valeurs de leur métier.
Mais ça, c'est contourné, c'est-à-dire qu'on réintroduit du collectif. Moi, je me rappelle le discours halluciné de Pannier-Runacher, où toute l'entreprise, il n'y a que des collaborateurs. C'est-à-dire du PDG à l'agent d'entretien, on est tous des collaborateurs. Et des collaborateurs. Alors qu'avant, si on reprend le capitalisme naissant du 19e siècle, il y avait le patron, il y avait l'entreprise qui était souvent patriarcale, et il y avait les employés, les ouvriers, il y avait les petits chefs, il n'y a plus tout ça. Maintenant, on est tous des collaborateurs. Et quand on revendique, on ne sait plus après à qui revendiquer, puisqu'il n'y a plus de patron. Le patron, c'est les actionnaires, on ne les connaît pas. Ils sont plus là. La plupart du temps, ils sont aux États-Unis, en Chine, n'importe où. Et on se retrouve entre salariés. Enfin, on se retrouve entre dominés.
Ouais, et puis après le même les mots collaborateurs, c'est-à-dire qu'on en fait on est atomisé dans les entreprises et chacun a sa spécialité, son niveau hiérarchique et puis les processus, les ordres ou les directives sont donnés de haut en bas ou de bas en haut, enfin plutôt de haut en bas, mais on va utiliser néanmoins des mots positifs hein, comme collaborateur comme tu dis ou comme démarche qualité, ce genre de choses qui parfois essayent de masquer un peu mieux la réalité concrète de des hiérarchies qui sont mises en place.
Il y a un rôle important, c'est le transfert du bien commun en bien privé, qui est noté dans l'essai. C'est-à-dire que c'est la fin des services publics. C'est le transfert, par exemple, de la santé des hôpitaux publics vers les cliniques privées. Donc tout ça, c'est en train de s'accélérer là depuis quelque temps.
Oui, un des discours des défenseurs hein, du capitalisme, c'est de dire qu'un service public coûte de l'argent. Qu'un enseignant du public coûte de l'argent, qu'un infirmier, qu'un aide-soignant coûte de l'argent. En réalité, c'est pas du tout le cas. Et c'est un des moyens de justifier le fait que ces métiers-là, il va falloir les privatiser pour notamment aussi mieux les organiser. Mais en les privatisant, on voit bien ce qui se passe. Hein. Souvent, on devient non plus des métiers au service d'une mission collective d'intérêt général, mais un métier qui doit intégrer une dimension de rentabilité qui est très délétère, puisque on amène une dimension de rentabilité de l'individu, du temps de travail, des processus. Mais la rentabilité, pourquoi ? Comment on évalue la rentabilité du travail d'un aide-soignant, d'un enseignant ? On peut pas considérer ça comme rentable. Dès lors qu'on privatise ces métiers-là, on les sort en grande partie de leur mission d'intérêt général, désintéressés de tout profit. Le profit qui est un des buts du capitalisme, c'est d'avoir des activités qui rapportent de l'argent, qui permettent de faire dégager plus d'argent qu'il y en avait au départ. C'est complètement incompatible avec des missions d'intérêt général collectives.
Il y a le rôle des religions aussi, le rôle des religions et des croyances, parce que là on est à l'heure de la mondialisation, et on s'aperçoit par exemple que aussi bien quand Trump était au pouvoir, Bolsonaro ou en Inde, etc., le rôle des religions est capital, parce que ne serait-ce que les évangélistes ou les hindouistes, les intégrismes sont en train de faire monter les dominations au niveau sur les peuples à l'international avec des gens extrêmement dangereux.
Alors, en ce qui concerne la religion, pour moi, il faut bien distinguer la spiritualité individuelle
qui n'a rien à voir avec la politique.
Voilà, qui n'a pas grand-chose à voir avec la politique et la manière dont, même très tôt au cours de l'histoire, après les premières formes de sédentarisation, mais il y en avait certainement aussi avant, des formes de spiritualité, la manière dont les personnes qui s'accaparaient le pouvoir ont utilisé la religion, enfin, ou les formes de spiritualité ou de magie, comme des atouts pour justifier, légitimer leur position de pouvoir. Donc encore aujourd'hui, on a des représentants politiques qui peut-être étaient croyants au départ, peu importe, mais utilisent largement la religion, comme ils pourraient utiliser pour certains les réseaux sociaux, parce qu'ils ont compris qu'il y avait là quelque chose qui allait servir leur carrière électorale. La plupart des hommes politiques des grands pays sont des carriéristes politiques. Ils sont grisés par le pouvoir et les systèmes politiques les maintiennent en place, malheureusement. Et donc, ils utilisent tous les moyens qui sont à leur service, dont le religieux, parce que ça peut avoir une forme de succès auprès des populations. Et ça permet de créer un flou entre la tradition religieuse et puis les objectifs politiques d'un parti ou d'une personne.
On n'est pas loin de la relégitimation royaliste, comme il y avait avant, du pouvoir de droit divin.
Mmh, voilà, à l'époque où le roi était le représentant quasiment d'un dieu sur terre.
Hein. Voilà. Et qu'est-ce que la stratégie du choc ? Alors ça, c'est...
La stratégie du choc, c'est un des éléments que j'ai essayé d'étudier un petit peu dans mon essai. Ça vient d'un terme de Naomi Klein, qui nous explique. Alors moi, la manière dont je l'ai compris, c'est que dans les stratégies qu'utilisent les dominants pour maintenir leur pouvoir, ils utilisent des événements ou des chocs hein, qui peuvent apparaître dans la société ou mondialement, pour ensuite faire accepter des décisions qui vont être parfois à l'encontre de l'intérêt général ou qui vont renforcer leur position de domination. Et donc ces chocs, ça peut être par exemple une guerre, une pandémie, des méga feux de forêt, le réchauffement climatique, n'importe quoi. Alors des fois, ça peut être des chocs même créés, hein, comme les armes de destruction massive avec George Bush. Et donc ces chocs, ça va être une manière de dire, voyez, il y a un danger extérieur, il y a quelque chose qui nous menace, et donc il faut faire face à ce choc.
C'est Orwell.
Et voilà, il faut répondre à cette menace. Et donc c'est très pratique, puisque ça permet en tant que dominant politique d'asseoir sa légitimité en disant nous réagissons face à quelque chose et nous allons installer des procédures de contrôle, des interdictions de manifestation, des lois qui vont être beaucoup plus liberticides, mais c'est dans votre intérêt puisque nous répondons à un choc. Et bien souvent, ces moments-là, ou alors des attaques terroristes, hein, on a vu ça en France, hein, ça a été l'occasion d'installer des lois beaucoup plus liberticides dans la manière de surveiller les journalistes d'investigation,
d'arrêter les enquêtes, des écologistes.
Voilà, d'arrêter des personnes, de systématiser les gardes à vue pour des personnes qui sont pacifiquement en manifestation. Et ça, je l'ai vu de nombreuses fois en manifestation pendant le mouvement des Gilets jaunes. Donc la stratégie du choc, c'est un des moyens pour les dominants d'installer leur légitimité. Mais il ne faut pas oublier que, et c'est vraiment tout le cœur de mon livre, c'est de montrer, certes, comment les dominants dominent, mais comment nous, en tant que population, en tant que travailleurs, en tant que militants, nous acceptons ce qu'ils nous proposent, nous nous conformons à ce qu'ils nous proposent, nous nous habituons et nous entretenons nous-mêmes aussi les discours dominants, qui bien souvent émanent des dominants, mais que nous entretenons aussi également trop souvent dans le discours.
La fameuse majorité silencieuse.
Alors là, oui, c'est silencieuse, mais alors je ne sais pas ce que tu entends par là.
Mais ce que j'entends par là, c'est par exemple, il y a 70% des gens qui refusent la réforme des retraites et il y a 2 millions de personnes dans la rue.
Ouais.
C'est donc il y a forcément une grande majorité de ceux qui refusent, qui par conformisme, qui par timidité, parce qu'ils ont peur, etc., ne vont pas manifester leur désaccord. Et donc, qui par là même renforce les systèmes de domination.
Voilà, ça fait partie de notre de nos habitudes un peu de vie, hein. C'est-à-dire que dès l'école, on n'est pas habitué à contester de manière un petit peu inconfortable. On nous habitue à prendre la parole, à débattre éventuellement, à ne pas être d'accord, à écouter le point de vue de l'autre. Mais dès lors qu'il faut lutter, sortir un petit peu de ces habitudes de vie. Éventuellement être face à des policiers qui vous envoient des gaz lacrymogènes et pas rentrer tout de suite chez soi mais rester un petit peu dans la rue pour montrer qu'on est toujours là, aller simplement en manifestation pour beaucoup c'est quelque chose qui ne leur ressemble pas ou qu'ils ont jamais fait. Ils pensent que voilà, ils vont être aux côtés de personnes qui sont pas comme eux. Alors qu'en fait, en manifestation, on rencontre vraiment tout le monde, hein. C'est une grande diversité de la société. Sortir de cet inconfort, de ce confort, pardon, c'est pas facile. Et néanmoins, faut essayer, faut aller rencontrer les personnes.
Et ben pour se remettre, on va faire une seconde pause musicale et on va écouter toujours en Afrique du Sud, je crois, Lucky Dubé. Vous êtes toujours sur Radio Évasion et vous écoutez bien au contraire l'émission qui réfléchit sans avoir à avoir l'air. Et nous sommes en compagnie de Guirec Lemeur pour parler de son essai « L'impuissance du peuple » paru aux éditions EDEFCOM dans la collection Sapiens. Donc, existe-t-il, on peut se poser la question, après avoir lu « L'impuissance du peuple », existe-t-il une société où on pourrait travailler pour le bénéfice de tous ?
Moi, j'ai pas plus la réponse qu'un autre. J'en ai aucune idée. Je pense que se rapprocher d'un idéal démocratique ou anarchiste, c'est quelque chose de très compliqué, qui nécessite beaucoup de temps, de sacrifices, de questionnements, de débats, de sciences humaines, de réflexions collectives, de pratiques. Et c'est quelque chose qui est, je pense, difficile à atteindre. On devrait essayer de faire l'effort, en tout cas, de s'en rapprocher le plus possible et d'avoir l'intention de réduire au maximum les inégalités. Après, on a des exemples de, peut-être au cours de l'histoire ou même encore aujourd'hui, de lieux ou de régions dans le monde où des personnes défendent collectivement leur manière de s'organiser dans le travail, leur manière de lutter, de s'éduquer, qui s'inspire notamment de formes d'anarchisme. Je pense par exemple à la région du Chiapas au Mexique, et qui depuis les années 90 quand même essaie de lutter face à l'État central qui voudrait les privatiser les terres agricoles, par exemple, et ne pas entendre parler d'auto-organisation, d'autogestion communale. On a des exemples dans l'histoire où on peut se réapproprier un petit peu sa vie collective et les décisions collectives. Après, une échelle plus nationale ou internationale, c'est encore autre chose. Moi j'ai peu d'exemples dans l'histoire, en tout cas, où c'était possible, mais c'est quelque chose vers lequel on doit s'inspirer et lequel on devrait essayer de tendre le plus possible.
Oui. Donc, il y a quelques solutions quand même qui sont esquissées dans le livre. Elle n'est pas tout de suite déprimée, ça ne va pas être simple, mais par exemple, il y a choisir avec soin son information, le moyen de s'informer. Parce qu'apparemment, un des moyens, et finalement un des moyens de domination, sont les médias, les grands médias.
Alors je rappelle que le titre du livre, c'est « L'impuissance du peuple, point d'interrogation ». Donc l'idée, c'est vraiment de regarder le problème à la racine et de ne pas se voiler la face sur ce problème. pour essayer d'en trouver des solutions. Et donc, une des solutions que j'explore un petit peu à la fin du livre, c'est notamment la manière dont on peut un petit peu élargir notre esprit critique, notamment via l'éducation aux médias ou des prises d'informations alternatives. Donc, plutôt que de parler de sa prise d'information, je dirais ses prises d'information. La première, c'est de descendre en bas de chez soi, de rencontrer ses voisins et de parler avec les personnes qui partagent un même territoire que nous, qui travaillent sur ce territoire, qui connaissent les champs, les entreprises, les associations. C'est le premier moyen de s'informer, hein, de rencontrer ses voisins et les gens qui habitent dans son quartier. Ensuite, il y a énormément de médias alternatifs, qu'on peut dire alternatifs, même si ça peut paraître péjoratif, en fait. Mais comme la radio ici, Radio Évasion, ou des médias papier, des médias sur Internet, ou peut-être des youtubeurs, je sais pas, qui font un travail énorme et qui sont très peu suivis. Enfin, certains le sont, mais... ces informations sont plus dures à trouver, évidemment, par rapport aux radios ou chaînes de télé nationales. Mais quand on commence à les explorer, on se rend compte qu'on a accès à un autre discours, un petit peu moins uniforme, un petit peu moins conformiste, un petit peu moins sage. Et parfois, ça permet de creuser un petit peu les sujets à la racine. Donc c'est vraiment un bol d'air très intéressant. Donc faut pas hésiter à regarder, notamment localement, hein, ce qui peut exister comme média alternatif.
Oui, puis peut-être aussi apprendre à hiérarchiser, parce que c'est un outil, déjà l'outil de la domination, c'est de fracturer la société, c'est vraiment l'outil par excellence. Il y a aussi hiérarchiser l'information, parce que là, on vit dans un monde où tout se vaut.
C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est ouais. sur les chaînes d'information, où on peut passer du chien d'un people, et juste après d'une guerre en Ukraine, et ensuite d'une inondation, et ensuite des problèmes en Afrique entre des ethnies qui s'entretuent. Donc on reçoit toutes ces informations en continu comme une masse de données sur laquelle on fait plus l'effort en fait de se dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui mérite d'être creusé, d'être vérifié, et même qu'est-ce qui est une information et qu'est-ce qui n'en est pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on nous présente qui relèvent plus du fait divers plutôt que de l'information éclairée qui nous permet de comprendre en profondeur la société et ses enjeux. On a tellement pris l'habitude de recevoir des faits divers comme un divertissement, finalement, qui sont présentés comme un divertissement sur des chaînes d'information ou des radios d'information, qu'on considère que ce sont des informations et que ça nous éclaire de manière approfondie sur le monde. La plupart du temps, non. La plupart du temps, les grands principes politiques ou économiques qui organisent nos vies ne sont pas creusés, ne sont pas dits, et les mots importants, les concepts importants ne sont pas du tout évoqués.
Est-ce que, à ton avis, l'urgence écologique qui est vitale pour l'humanité, qui là, pour le coup, risque de mettre un terme et aux dominants et aux dominés, est-ce qu'elle peut jouer un rôle accélérateur dans le changement de rapport au sein de la société ?
Alors, je pense qu'elle joue déjà un rôle accélérateur dans les formes de militantisme, notamment chez les jeunes. Après, je pense qu'il ne faut pas voir le problème climatique ou environnemental comme le problème numéro un. Tout d'abord parce que depuis des centaines d'années, on a une inégalité sociale dans nos manières de répartir la richesse et le pouvoir qui est absurde et indécente et qui existe depuis très longtemps, bien avant les problèmes climatiques. Donc c'est ce problème-là auquel il faut s'attaquer et auquel dans un premier temps. Et aussi, le problème environnemental est une des conséquences de nos manières de nous organiser politiquement et économiquement parlant, en mettant la productivité, la croissance notamment, ou le profit, comme un des enjeux essentiels de nos productions économiques. Et donc on en arrive à des extractions de ressources, de biodiversité qui sont absurdes. Si on veut traiter en partie le problème environnemental, on ne peut pas le faire sans traiter au préalable et sans se questionner au préalable sur nos manières de nous organiser collectivement, politiquement et économiquement parlant.
Mais là, il y a une urgence qui est absolument vitale, comme par exemple le projet de Bolloré de déforester en grande partie l'Ouganda. On ne peut pas non plus prendre le temps d'en discuter, quoi.
Oui, alors, je pense que dans nos manières de nous engager, il y a des combats que l'on peut mener plutôt au court terme et d'autres combats à long terme. Ça, je pense que les deux peuvent s'imbriquer. Parfois, il y a des grands projets, que ce soit à l'étranger ou en France, qui sont inutiles, qui n'ont pas été démocratiquement débattus, qui veulent s'installer sur des territoires. Et là, il y a des occasions d'agir localement, tout de suite, sans attendre. Je pense par exemple aux méga-bassines. Et là, on peut en être tout de suite maintenant. En revanche, il ne faut pas perdre de vue la dimension systémique et historique de nos processus économiques, des principes du capitalisme qui organisent encore massivement notre travail, de nos principes d'écriture de constitution qui n'ont pas été faites à l'initiative du peuple. Et toutes ces choses-là sont déterminantes et sont des choses à réfléchir sur le long terme, qui ne peuvent pas se faire d'une semaine après l'autre, et qu'on doit intégrer aussi à nos réflexions militantes et à nos engagements, que ce soit locaux ou nationaux.
Oui, parce que juste pour rappel, la constitution de 58 est une constitution de guerre. C'est-à-dire que la France était en maintien de l'ordre en Algérie, mais c'était quand même une constitution de guerre. Et donc aujourd'hui, où on est en paix depuis 70 ans, on est toujours ce qui soi-disant nous lie. Le peuple est une constitution qui a été faite au cours d'un coup d'État militaire qui a porté le général de Gaulle au pouvoir. Donc c'est un petit peu paradoxal de parler de démocratie. Et effectivement, il y a aussi les luttes donc, qui sont très présentes dans l'ouvrage, dont la grève générale, etc. Mais qui posent quand même des problèmes. Par exemple, une des principales luttes ces dernières années, ça a été celle des soignants. Mais quand on est soignant, on peut faire grève tant qu'on veut, ça ne dérange absolument personne, puisqu'on ne peut pas déserter les services et laisser les malades mourir. Donc c'est très problématique.
Et c'est très difficile, en effet. La profession soignante, c'est vraiment particulier, parce que moi qui étais infirmier, on se sent quand même au service des individus, et on ne se sent pas les abandonner pour faire grève sur plusieurs semaines. C'est très compliqué de vraiment se déconnecter de son travail. Et néanmoins, beaucoup font grève en allant travailler. Donc c'est marqué en grève sur leur blouse, mais ils sont au travail. Mais comment, dans ces conditions, peser dans le rapport de force avec les personnes au pouvoir? Là, il y a une forme de réflexion à avoir entre les divers secteurs en lutte, entre les différents corps de métier, les syndicats, les associations, les collectifs sur les territoires, les médias alternatifs, libres. Comment on peut avoir des luttes solidaires, comment on peut remettre de la transversalité dans nos luttes, parce que là on va à un moment donné lutter contre une réforme des retraites, ensuite on va lutter contre la privatisation du secteur médical, ensuite on va lutter contre le pass sanitaire, etc. Mais finalement, chaque année, on a des luttes isolées qui s'enchaînent les unes aux autres, qui parfois ne veulent même pas partager leur calendrier.
Parfois, ils sont antagonistes même.
Ça peut aussi être antagoniste, mais moi je me souviens des réflexions qu'on avait sur Lyon, où on essayait de faire converger ce qu'on appelle la convergence des luttes, où on essayait de discuter de ça, de la pertinence de cette dimension dans la lutte. Et ça peut être un des ressorts, en tout cas dans le milieu militant, où on peut avoir un peu plus de poids et de solidarité dans nos manières de nous engager.
Allez, petite dernière pour finir. Est-ce que, après tout ça, après toute cette analyse, parce que moi, je vous assure, les 300 pages, là, vous apprendrez vraiment des milliers et des milliers de choses. Est-ce que tu es plutôt optimiste sur la capacité du peuple à reprendre un petit peu son destin en main, ou plutôt pessimiste?
Alors, je ne vous cache pas que je suis plutôt pessimiste quand je regarde l'histoire, c'est-à-dire comment les mouvements révolutionnaires ont été plutôt en échec au cours de l'histoire. Aujourd'hui, on a des formes de systématisation de la technologie et de la privatisation qui sont pas forcément encourageants. Voilà. Après, là où je suis plus optimiste, c'est sur la dimension positive et de la lutte en elle-même, de l'engagement militant, où qu'il soit, hein, qu'il soit dans la rue, dans les médias, dans notre travail aussi, avec nos voisins. La lutte, elle permet de rencontrer des personnes, de faire la fête, de se réunir, de se parler, de se rencontrer, d'être curieux les uns envers les autres. Et là, je suis très positif. Je pars aussi de mon expérience où la lutte a été très, très enrichissante, hein, à ce niveau-là. Donc, et on ne sait jamais qui sait quelle lutte nous attend massivement ou grève générale nous attend dans le futur, ou dans un futur proche peut-être. Et qui serait victorieuse à une échelle relativement importante. Donc, il faut garder toujours cette petite idée en tête.
Eh bien, tant mieux, on n'est quand même pas à l'abri d'une bonne surprise. Voilà. Merci, Guirec Clemer, pour cette forte intéressante présentation de ton essai. Je rappelle le titre « L'impuissance du peuple » avec un point d'interrogation. J'avais oublié de le dire, qui est paru aux éditions EDEFCOM dans la collection Sapiens. C'est une somme documentée, argumentée, explorant tous les aspects du dramatique problème des inégalités et de la domination du très grand nombre par une infime minorité. Vous écoutiez bien au contraire l'émission qui réfléchit sans en avoir l'air sur les ondes de Radio Évasion. Nous nous retrouvons bien entendu le mois prochain pour un nouveau thème à explorer. Bye bye.